Bonjour, Jean-Claude Issali, bénévole, administrateur de la LPO. Donc je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais vous présenter le coucou gris, un des oiseaux qui symbolise aussi le printemps, donc qui fait partie de la famille des cuculidés, qui est une famille assez hétérogène, mais où il y a vraiment beaucoup d'espèces, puisqu'on compte pas moins de 147 espèces. Et dans les 147 espèces, il y a 59 espèces de coucous. Donc les coucous sont présents sur tous les continents. Leur trait commun, c'est peut-être leur longue queue, un peu étagée, donc un peu barrée. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre le mâle et la femelle, est faible. Il y a quelques cas où il y a des différences, mais très peu. Alors on connaît le coucou gris parce qu'il parasite d'autres oiseaux, mais en fait, dans les coucous, le coucou gris est un peu une exception. Il n'y a que trois coucous qui sont des parasites, hein, qui pondent dans les nids des autres oiseaux. Voilà, beaucoup d'espèces de coucous sont malheureusement menacées, ce n'est pas une particularité. Voilà. Alors, comment se présentent les oiseaux, les coucous? Donc, le coucou gris, le mâle adulte et la majorité des femelles adultes ont un plumage gris. Les parties supérieures sont gris moyen, assez uni. La tête, le cou, le haut de la poitrine sont plus clairs, d'un gris plus clair. Les ailes sont assez longues, assez pointues. La queue est longue aussi, les gris ardoisé prononcé. Et les parties inférieures sont plus claires, plus blanches, nuancées de crème au niveau du ventre et des sous-caudales. Les sous-caudales, ce sont les plumes qui sont sous la queue. La poitrine et les flancs sont finement barrés de gris, ce qui le rapproche un peu des fois des rapaces. Et on prend le coucou gris pour un faucon, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. La longue queue, elle est cunéiforme, c'est-à-dire en forme de coin. Elle est nettement tachetée et terminée de blanc. Et enfin, l'œil est jaune, l'iris est jaune, l'œil est cerclé de jaune. Bon, si on le voit assez près, ça se voit. Le bec est noir avec du jaune à la base. Les pattes sont courtes et jaunes. Les femelles ont souvent le haut de la poitrine plus ou moins teinté de roussâtre. Et quelques femelles sont complètement brun-roux. Ce qui est assez particulier, on dit que ce sont des femelles hépatiques. Ça m'est arrivé d'en voir parfois. Donc quand on voit un coucou tout brun, ben c'est une femelle. Et c'est un peu une exception. Voilà, ces oiseaux sont effectivement faciles à identifier quand ce sont des femelles donc brun-roux. Par contre, le plumage des jeunes, des immatures, des juvéniles, est assez déroutant parce qu'il est assez différent des adultes. Les parties supérieures sont vraiment d'un brun soutenu, il a une tache blanche sur la nuque, les plumes sont barrées de beige et de chamois, terminées de blanc, ce qui fait que les jeunes oiseaux sont assez cryptiques et ça facilite leur camouflage. Donc le coucou, il est très connu et très repérable par son chant. Donc c'est d'une tonalité élevée, assez répétée. La première note est un peu plus haute que la seconde. Et des fois, dans l'excitation, c'est trois syllabes. C'est coucoucou, coucoucou. Alors que, bon, normalement, c'est plutôt deux syllabes. Et parfois, il se termine aussi par des notes plus dures à la fin. Surtout quand on n'est pas très loin, on entend des à la fin du chant. La femelle peut répondre par des quic-quic-quic assez particuliers qui vont décrescendo. Quand on a la chance de voir le mâle chanter, souvent au perché, on peut remarquer qu'il chante avec les ailes pendantes. Voilà, et il va chanter du moment où il arrive jusqu'au mois de juillet à peu près. Écoutons son chant.
Coucou.
son comportement. Donc le coucou gris est un grand oiseau migrateur, mais il migre de nuit, donc il se déplace de nuit. Les oiseaux qui vivent en Europe, donc hivernent en Afrique, au sud du Sahara. Les premiers qui partent sont des adultes qui peuvent partir dès la fin du mois de juillet, courant du mois d'août, alors que les jeunes de l'année ne partiront qu'en septembre, voire même octobre. Les oiseaux qui vivent chez nous, pour partir en Afrique, ils passent par Gibraltar ou par le Moyen-Orient, longeant la côte libanaise, israélienne. Voilà. Mais bon, certains passent par des routes un peu plus hasardeuses, un peu plus risquées, comme l'Italie, la Sicile ou la Grèce via la Crète. Et donc, ils ont des longs survols de la Méditerranée, ce qui peut entraîner quand même aussi pas mal de pertes. En Afrique, les oiseaux descendent jusqu'au centre et au sud de l'Afrique. Et le retour, donc, le retour pour la reproduction, le retour au printemps a lieu surtout, on peut entendre les premiers toute fin mars, mais c'est surtout en avril et début mai qu'ils arrivent. On les repère bien sûr au champ et au coucou. Bon, on peut penser que certains arrivent plus tôt et ne chantent pas encore et du coup on les repère pas. C'est possible. Le coucou, il est généralement caché dans les arbres ou les buissons, il n'est pas facile à voir. Il n'y a vraiment que quand il chante qu'on peut le chercher et il peut se percher en évidence, comme je le précisais précédemment. Souvent sur le sommet d'un arbre, mais ça peut être aussi sur le sommet d'un poteau, parfois sur un fil électrique. Voilà. Mais c'est vrai que quand il chante, si on le cherche, on peut le trouver. Mais le coucou, ce qui le caractérise au niveau du comportement, c'est son mode de reproduction parasite. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, ça donne à réfléchir parce que on imagine volontiers qu'un jeune oiseau a besoin de l'exemple de ses parents puis des autres membres de l'espèce pour acquérir les bases de son comportement futur. Et là, avec l'exemple du coucou, on voit que c'est l'inné qui remplace tout cet apprentissage parce qu'il va être élevé par d'autres oiseaux et après, par la suite... Et pour se reproduire, il ne va pas se tourner vers les oiseaux qui l'ont élevé, il va bien reconnaître les individus de sa propre espèce. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Donc on ne peut pas dire qu'il soit imprégné par l'espèce hôte.
Thank you.
nous rejoignez, vous écoutez À Tire d'Aile, l'émission de la LPO Aveyron. Cette émission est consacrée aujourd'hui au coucou gris. Le coucou gris a une allure de faucon, une silhouette de faucon, mais son vol est très différent de celui d'un faucon. Ce qui permet de le distinguer, c'est que ce vol est rapide, il est direct, et il est assuré par des petits battements d'ailes rapides, de faible amplitude. Donc c'est vrai que quand on l'a bien repéré, on a son giz en tête, en quelque sorte, et on le reconnaît assez facilement. Voilà, son vol est soutenu sur de longues distances, et bien sûr, il en a vraiment besoin pour effectuer ses migrations transcontinentales. Au niveau de son alimentation, c'est un insectivore. Il se nourrit de gros insectes et de leurs larves, particulièrement les larves des lépidoptères, donc de toute la famille des papillons. Et il n'est pas rébuté par les chenilles velues. D'ailleurs, il est connu pour consommer les chenilles processionnaires. Alors, bon, je ne pense pas qu'il les recherche en priorité, mais bon, à l'occasion, il peut s'en repaître. À son régime, on peut également rajouter les orthoptères, les coléoptères, donc tout ce qui est un petit peu grosse sauterelle, criquet, donc coléoptères, diptères, les araignées, quelques petits mollusques, et même parfois des œufs ou des poussins de petits passereaux, mais des poussins tout à fait naissants. Donc il capture ses proies au sol, mais surtout c'est dans la végétation un peu épaisse. Donc au niveau reproduction, comme quelques autres membres de sa famille des cuculidés, le coucou gris est un parasite. C'est-à-dire que la femelle va pondre ses œufs dans le nid d'autres espèces, essentiellement dans le nid de petits passereaux. Donc le coucou, il est quand même de la taille d'une grosse tourterelle, d'un petit rapace. Et il va pondre donc dans les nids de petits passereaux, de passereaux qui sont nettement plus petits que lui. Donc on va voir un petit peu ces espèces-là. Bon, il fréquente beaucoup les roselières, hein, en plus des zones forestières. Et dans les roselières, il y a des rousserolles qui nichent. Et donc c'est une espèce qui est très couramment parasitée. Donc la rousserolle, son nid, il est accroché dans les roseaux. Et pour un oiseau qui passe au-dessus en vol, il est assez facile à repérer. Donc la rousserolle fait partie des espèces les plus fréquemment parasitées quand il y a effectivement des roselières. Chez nous, les oiseaux les plus parasités, c'est en premier lieu le rouge-gorge, l'accenteur mouché, le troglodyte, les pipites et les bergeronnettes. Mais bon, il y a beaucoup plus d'autres espèces que ça qui sont parasitées, puisque dans la littérature, on peut lire qu'il y a plus d'une centaine d'espèces de petits passereaux qui peuvent être parasités par le coucou. Donc la femelle, quand elle est sur un cycle de ponte, elle dépose un œuf par jour dans des nids différents. Donc il faut qu'elle trouve des nids et que dans ces nids, il y ait des œufs. Alors l'œuf, la particularité de l'œuf du coucou, c'est qu'il est très petit par rapport à la taille de l'oiseau. Et ce qui est un petit peu normal, parce que comme il va être pondu dans des nids d'espèces qui sont beaucoup plus petites, il faut que la taille de l'œuf s'apparente un petit peu à celle des espèces hôtes, quoi. Voilà. Et puis, alors, la particularité aussi, c'est que les œufs des petits passereaux, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont rougeâtres, il y en a qui sont bleutés, il y en a qui sont tachetés, etc. Et donc, le coucou, en fait, il va pondre des œufs avec certaines caractéristiques, mouchetés ou pas mouchetés, ou très clairs, ou un peu rougeâtres, etc. Mais il les dépose chez des espèces de passereaux qui ont des œufs qui ont à peu près les mêmes couleurs. Donc, on peut penser que des coucous qui parasitent, par exemple, des rouges-gorges, vont parasiter des oiseaux qui ont des œufs qui ressemblent beaucoup à celui du rouge-gorge. Sinon, ils peuvent être rejetés. Donc, après, ça demande un exercice un peu particulier, parce que quand on imagine qu'un coucou peut pondre dans le nid d'un troglodyte, et qu'on sait que le nid d'un troglodyte, c'est pas un nid ouvert, c'est pas un nid en forme de coupe, c'est une boule de mousse avec un trou d'entrée. On se dit, mais comment il fait pour aller déposer son œuf dedans? Bon, mais il y arrive. Et puis, très souvent, il prélève un œuf pour le remplacer. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il pond son œuf et puis il prend un œuf qui existait déjà. Et d'ailleurs, un œuf qu'il peut consommer. Alors, la particularité aussi des coucous, et c'est bien leur performance dans le parasitage, c'est qu'ils ont une durée d'incubation qui est très faible, 11 à 12 jours. Parce que quand ils pondent un œuf dans un nid existant, la couvaison peut être en cours. Alors, ils profitent, et bien sûr, pour pondre leur œuf, d'un moment où la femelle qui est en train de couver ou de pondre s'absente. Ils sont en surveillance et dès qu'elle s'en va, ils pondent leur œuf très très rapidement. Ils n'ont pas besoin de rester demi-heure couché sur le nid pour le pondre. C'est vraiment fait à moins d'une minute. Donc, si l'incubation est en cours, comme la plupart des petits passereaux, l'incubation elle est de 14-15 jours. Eux, leur incubation elle est de 11 à 12 jours. Ce qui fait que le jeune coucou, il éclot simultanément ou même un peu avant les jeunes de l'hôte. S'il éclot juste un petit peu après, ce n'est pas un souci. Parce que le jeune coucou, il a un réflexe, c'est d'éjecter hors du nid tout ce qui s'y trouve, de façon à ce qu'il se retrouve tout seul à bord. En fait, il a une zone très, très sensible sur le dos qui ne supporte pas de toucher autre chose. Et donc, s'il y a les autres œufs qui ne sont pas éclos, ben, il va les éjecter. Et s'il y a déjà des poussins éclos, ben, il les éjecte aussi. Donc, c'est cette dépression dans le haut du dos qui recueille et éjecte coup sur coup les œufs ou les jeunes poussins de l'hôte. Et bien sûr, il est pris en charge et nourri par ses parents adoptifs qui font comme si de rien n'était. Ce qui montre le caractère très instinctif et peu réfléchi du comportement des oiseaux. Donc, le jeune coucou, il va rester au nid un peu plus de 15 jours, 17, 18 jours. Après quoi, il continuera d'être dépendant quand même de ses parents adoptifs pendant 2-3 semaines. Alors, on pourrait croire que tout se passe parfaitement à chaque œuf pondu, mais ce n'est pas le cas. Il existe quand même un taux de rejet de l'œuf du parasite. Que celui-ci soit mimétique ou non, c'est-à-dire qu'il ressemble ou pas, il y a certains oiseaux qui ne se font pas berner et qui éjectent l'œuf du coucou. Les espèces qui nicheraient au sol auraient un taux de rejet un peu plus faible que ceux qui nicheraient en hauteur. Bon, ça c'est ce que j'ai pu lire dans la littérature. Mais il y a des espèces qui sont très tolérantes, comme la rousserolle ou le rouge-gorge, qui vraiment rejettent très peu ces œufs. Alors, pour compenser les aléas de la reproduction, la femelle du coucou doit être très prolifique et pondre suffisamment d'œufs pour assurer un équilibre démographique, pour assurer la pérennité de son espèce. Donc, les petits oiseaux pondent facilement 7-8 œufs et la femelle coucou peut en pondre, dans un cycle de ponte, elle peut en pondre 10-12 assez facilement. Mais bien sûr, il faut que, comme elle en pond un par jour, il faut qu'elle trouve un nid par jour et il peut y avoir aussi des aléas dans la recherche d'un nid qui puisse accueillir cet œuf. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que Le coucou, il devient beaucoup plus gros que ses hôtes. Et quand on voit un rouge-gorge nourrir un coucou qui est presque prêt à l'envol, ça fait drôle, quoi. On a l'impression que le coucou, il pourrait manger même son parent adoptif. Et quand il est dans un nid de troglodytes, ben, il éclate le nid, quoi, en grandissant. Parce que bien sûr, il peut pas y rentrer dedans. Et la particularité aussi, c'est que pour le nourrir, le troglodyte notamment, mais ça peut arriver aussi chez d'autres espèces, ben, il se pose carrément sur le dos du coucou quand il est presque prêt à l'envol, qu'il est costaud. Comme il n'arrive pas du bord du nid à lui transmettre les petits proies, les petits insectes et tout ça, donc il faut qu'il trouve un poste et donc il monte carrément sur le dos de l'oiseau. En France, on rencontre le coucou dans toutes les régions, du niveau de la mer jusqu'à la limite supérieure des arbres en montagne. Il est très rare en milieu urbain. Après, on le trouve dans toute l'Europe. Mais on trouve aussi des sous-espèces dans toute l'Asie. Et les oiseaux qui nichent en Europe hivernent au sud du Sahara, en Afrique. Mais les oiseaux qui nichent, par exemple, en Russie, eux, ils hivernent en Inde ou en Corée, enfin, dans l'Asie du Sud-Est. En France, le coucou est en fort déclin. Entre 1989 et 2009, il a perdu un tiers de ses effectifs et la baisse se poursuit aujourd'hui. C'est vrai que c'est la ressource en insectes et en chenilles qui baisse. Hein. De toute façon, la diminution globale des insectes associée à la dégradation des habitats avec l'utilisation massive des insecticides, la diminution des haies, l'assèchement des zones humides, tous les soucis qu'ils rencontrent aussi et qui sont un peu les mêmes dans les zones d'hivernage. Et le réchauffement climatique qui avance le pic d'abondance des chenilles. Ainsi, les besoins alimentaires des jeunes ne peuvent plus être satisfaits à un niveau correct parce qu'ils naissent un peu trop tard. Et puis parfois, il ne peut pas pondre ses œufs dans les nids des autres espèces, notamment en Europe où les petits passereaux ont avancé avec le réchauffement climatique. Ils ont avancé leur ponte. Et du coup, le coucou qui arrive toujours aux mêmes dates, mais parfois, il peut ne pas trouver d'espèces hôtes et ne peut pas pondre ses œufs correctement et les déposer comme il faut. Voilà, tout cela peut expliquer aussi la chute des effectifs du coucou. Voilà, j'espère que ce petit survol de l'espèce vous aura intéressé et je vous dis à une prochaine fois.
CFM. CFM Villefranche.